Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'évangile de ce jour décrit le plus grand et le plus mémorable duel qui fut jamais. Les deux parties en présence sont très puissantes, leurs armes dangereuses, leur inimitié irréconciliable. Il ne peut s'en suivre que la victoire de l'un et la défaite de l'autre. D'un côté Dieu, de l'autre le diable. Les armes sont la parole de Dieu, l'inimitié est fondée sur une rébellion. L'Église met devant nos yeux ce combat, en ce début de carême, pour nous donner courage. Car nous devons suivre en tout notre Seigneur Jésus-Christ et nous devons combattre, nous allons combattre. Que pouvons-nous apprendre ce matin au désert en examinant ce terrible duel? Nous pouvons tirer 5 brèves considérations de cet affrontement. Premièrement, cet affrontement entre notre Seigneur et le diable nous révèle notre état. C'est le premier point. Deuxièmement, cet affrontement nous révèle l'ennemi que nous avons à combattre. C'est le deuxième point. Troisièmement, il nous éclaire sur sa tactique, la tactique de l'ennemi. Quatrièmement, en examinant cet affrontement, nous aurons les armes défensives pour répondre aux tactiques de l'adversaire. Enfin, cinquièmement, et ce sera la conclusion, cet affrontement nous montre la récompense après la victoire. Premièrement, cet affrontement nous révèle notre état. Notre Seigneur est tenté au désert par le diable, parce que nous aussi, nous devons l'être. Nous devons être tentés. Attention cependant, ce n'est pas Dieu qui nous tente. Dieu n'est en aucune façon cause du péché. Ce serait d'ailleurs, dire une chose pareille, un horrible blasphème. Tout péché, nous explique saint Thomas, éloigne de l'ordre qui a Dieu pour fin, pour but. Or Dieu, au contraire, incline et ramène tout à lui comme à l'ultime fin. L'action de Dieu, c'est de ramener tout à lui. Il est donc impossible que Dieu soit cause d'un quelconque éloignement d'un ordre qui est tout orienté vers lui. En revanche, Dieu permet la tentation. Mais permettre, ce n'est pas être la cause, ce n'est pas du tout la même chose. Si les raisons de cette permission peuvent nous dépasser, il nous faut néanmoins adorer ici la sagesse de Dieu, et cela avec d'autant plus de confiance que notre bonheur du ciel en dépend. N'est-il pas juste, en effet, que Dieu éprouve notre fidélité et l'amour que nous protestons avoir pour lui en permettant que nous soyons tentés? Et ne serons-nous pas davantage ses amis quand nous aurons repoussé tout ce qui aurait pu nous séparer de lui? Bien sûr que oui. De plus, nous espérons bien être dans la grâce et l'amitié du bon Dieu. Mais si nous possédions ce trésor avec une complète tranquillité, il serait fort à craindre que nous ne finissions par penser que la grâce nous est due, que nous la possédons par nous-mêmes. Alors qu'elle est un don tout gratuit de la bonté de Dieu. Aussi est-il bon, pour nous préserver d'un tel orgueil qui serait catastrophique, de sentir d'assez près le risque de perdre cette vie divine par la tentation. Saint Paul nous dit lui-même, saint Paul si élevé, si grand en sainteté, l'apôtre par excellence, lui qui a été élevé au troisième ciel, qui a vu quelque chose, on ne sait pas quoi, de la gloire divine. Aucun autre saint a connu quelque chose de semblable. Lui-même nous dit, c'est lui qui parle, « De peur que la grandeur des révélations que j'ai reçues ne m'enorgueillisse, le problème de l'orgueil, il m'a été donné un aiguillon dans la chair, un ange de Satan qui me soufflette. » La tentation. Même saint Paul. Pour le prémunir contre les tentations d'orgueil. Saint Philippe Néri, quant à lui, avait coutume de dire chaque matin, « Méfiez-vous de moi, Seigneur, car je vais vous trahir. Méfiez-vous de moi, Seigneur, car je vais vous trahir. » Conscience de sa faiblesse. Saint Thomas ajoute de son côté que les soldats ne s'aguerrissent que par de rudes travaux. Et nous sommes confirmés, nous sommes des soldats, notre Seigneur Jésus-Christ, qui devons défendre la Sainte Église, défendre la foi, défendre l'Eucharistie. Il nous faut des combats, et Dieu le sait. C'est pour ça que la tentation est permise par Dieu. Et ne nous leurrons pas, les occasions de combat sont nombreuses dans nos journées. Il n'y a pas toujours des combats contre le péché mortel, mais contre le péché véniel, les occasions sont très nombreuses. C'est ce qui fait dire au saint homme Job, « La vie de l'homme sur la terre est une perpétuelle tentation, un perpétuel combat par conséquence. » Notre état, nous sommes dans un état de combat spirituel contre la tentation. Et on ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas sortir de cet état. Ce sera ainsi jusqu'à notre mort. Et ce dimanche de carême nous rappelle cela. Nous devons combattre. Deuxième point. Ce duel nous montre l'ennemi à combattre. Qui est-il ? C'est le même que celui qu'affronte notre Seigneur aujourd'hui, le diable. Précisons cependant que pour nous, êtres humains, il y a plus que le diable qui milite contre nous. Les causes de la tentation sont en effet à rechercher tant au-dedans de nous qu'au dehors de nous-mêmes. En nous, il y a un traître. Il y a même deux choses qui donnent prise à la tentation en nous-mêmes. Tout d'abord, notre nature humaine, qui est quelque chose de fini, de faible, indépendamment du péché originel. Et voyez, Adam et Ève sont tombés avant le péché originel. Faiblesse de la nature humaine. Et qui plus est, c'est la deuxième chose, le péché originel et ses conséquences. Bien sûr, le baptême a effacé la culpabilité du péché originel vis-à-vis de Dieu. Nous a mis dans l'état de grâce, dans l'amitié de Dieu. Mais les blessures, même si elles ont été diminuées par le baptême, demeurent. Blessures de quatre types. La concupiscence, cette attirance vers les choses faciles, vers les plaisirs faciles. La faiblesse, cette difficulté à aller vers les choses difficiles, les choses de Dieu qui sont difficiles. L'ignorance, la difficulté à se soumettre à la vérité, la difficulté à travailler pour connaître la vérité, et également l'attachement à nos erreurs, la difficulté à reconnaître que nous avons eu tort. Enfin, le péché, la tentation de malice, rechercher le mal parce que c'est mal, parce que dans ce mal, nous exerçons notre liberté. Cet amour désordonné de sa liberté, y compris dans le mal contre Dieu, la malice. Nous avons cela en nous, nous avons ces mauvaises inclinations, auxquelles il faut ajouter les inclinations renforcées par les péchés que nous avons commis. Il y a cette mauvaise pente en nous. Ennemi intérieur. Il y a également des ennemis en dehors de nous. Et là, nous retrouvons le diable. Le diable et les hommes. Les hommes qui nous poussent aussi à la tentation. par leur mauvais exemple, en nous présentant des sujets de tentation, par leurs mauvaises maximes, et on appelle cela le monde. Le diable et le monde. Le diable, cependant, et nous revenons à l'Évangile, a un rôle majeur dans la tentation. Saint Thomas nous dit qu'il est la cause de tous nos péchés, au moins occasionnellement et indirectement. Puisque c'est lui qui a induit le premier homme à pécher, et qu'à la suite de son péché, la nature humaine a été tellement viciée que nous sommes tous maintenant enclins au mal. Saint Thomas donne l'exemple du bois. Il dit, si le bois brûle, c'est à cause de celui qui l'a fait sécher, puisque c'est une fois sec qu'il s'enflamme facilement. Et celui qui a séché le bois, qui a vicié la nature humaine, c'est le diable. C'est ce que dit saint Thomas. C'est bien lui, c'est bien le diable, qui a poussé le premier cri de révolte. Je ne servirai pas, non serviam. Je serai semblable au Très-Haut. C'est lui que Dieu a précipité au plus profond de l'enfer, à la dernière place. Les dons admirables qu'il a reçus, il les a tous tournés vers le mal. Une jalousie terrible le saisit à notre encontre. Il sait bien qu'une âme en état de grâce, ne fût-ce qu'à un degré très petit, infime, le surpasse infiniment, mais que ce trésor est porté dans un vase d'argile. Aussi n'a-t-il d'autre cesse que de nous pousser petit à petit à la chute, et il a une expérience plus que millénaire. Il sait comment nous pousser vers le péché mortel et combien d'âmes a-t-il traîné en enfer. Il a reconnu dans le Christ le plus parfait des hommes. Il aimerait le faire tomber, mais il ne trouve dans sa nature très pure aucun complice, contrairement à nous. Aussi est-il obligé de se montrer, et c'est pour ça qu'il apparaît. Il n'a pas de prise. Pour nous, ce n'est pas la même chose. Encore une fois, nous avons le péché originel, nous avons les blessures du péché originel et les blessures des péchés que nous avons commis. Le démon sait bien que pour prendre d'assaut notre âme, il n'a avec nous pas besoin de se montrer. Il peut compter sur le secours de ces traîtres intérieurs qui sont dans la place. Le démon avec nous va stimuler nos sens. Il va donner un attrait particulier aux créatures qui nous entourent. Et pour être plus sûr de nous abattre, il fait agir contre nous le monde dont il est le prince, les autres hommes. C'est pourquoi Saint-Pierre nous avertit de sa continuelle présence. Mes frères, prenez garde, car votre adversaire rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est une réalité. Le diable est autour de nous pour nous faire tomber. Abordons maintenant le troisième point, la tactique du démon. L'Évangile nous montre aujourd'hui trois formes typiques de suggestion qu'il emploie contre nous. On pourrait en trouver d'autres. Mais les trois d'aujourd'hui sont typiques et peuvent servir à grouper toutes les autres. Premièrement, première tentation, l'exagération du souci des choses temporelles. Si vous êtes le Fils de Dieu, dites que ces pierres deviennent des pains. Par cette suggestion, le diable tente de nous faire croire que notre bonheur consiste uniquement ou principalement dans l'assouvissement de nos passions et de nos convoitises. Le diable tourne nos regards vers la terre pour que nous les détournions du ciel. Première tentation. Deuxièmement, deuxième tentation, deuxième tactique du diable, la présomption. Si vous êtes le Fils de Dieu, jetez-vous en bas, car Dieu a commandé à ses anges de veiller sur vous. Le démon en use pareillement avec nous, en nous faisant faire fi de la plus élémentaire prudence. Il nous pousse à nous appuyer sur la force de nos convictions, sur notre ferme dessein de ne plus offenser Dieu, au lieu d'obéir à la voix du Saint-Esprit qui nous ordonne de fuir le péril. Il y a quelque chose de très important, voyez-vous. On peut sentir en soi un vrai désir de servir notre Seigneur, de faire le bien, de quitter le péché. Et combien de fois avons-nous fait l'expérience que nous sommes retombés dedans ? Il nous faut s'appuyer non pas sur cette force que nous sentons en nous, qui peut être dangereuse et trompeuse, mais sur Dieu, dans l'humilité. Voyez-vous, les pères du désert avaient cette pratique de répéter toute la journée « Deus in adiutorium meum intende, domine ad me festina ». Seigneur, venez à mon secours, Seigneur, hâtez-vous de venir me secourir. Pour rester dans cette conviction que par eux-mêmes, ils étaient incapables de résister aux tentations du diable, il leur fallait le secours de Dieu. Prière de dépendance, d'humilité, de demande du secours de Dieu. La Sainte Écriture nous dit « Quiam ad periculum in illo peribit » « Celui qui aime le péril, périra. » Il y a des lieux où il ne faut point aller. Il y a des personnes qu'il ne faut pas rencontrer. Qui aime le péril, périra. Nous avons la grâce pour éviter le péril. Une fois que nous sommes dedans, c'est fini. Nous n'aurons plus la grâce de Dieu. Et combien de chutes peuvent s'expliquer par cette imprudence ? Combien de chutes parce qu'on n'a pas mis le portable en dehors de la chambre ? Quiam ad periculum in illo peribit. Il nous faut détester le péril et nous serons sauvés. Enfin, troisième tentation, troisième suggestion du diable. Je vous donnerai tous les royaumes de la terre et leur gloire si vous vous prosternez pour m'adorer. Le diable exalte ainsi notre imagination, nos appétits. Il les soulève comme sur les hauteurs d'où il nous montre tout ce qui peut flatter notre orgueil, notre ambition, notre amour du bien-être. La convoitise et l'ambition. Notre convoitise et notre ambition doivent être le ciel, pas les choses de la terre. Quatrièmement, voyons maintenant la réponse à ces suggestions du diable, à ces tentations. Et c'est notre Seigneur qui nous donne ces armes. Ainsi, contre la suggestion qui pousse à l'exagération du souci des biens temporels, notre Seigneur oppose cette parole de l'Écriture. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il nous faut nourrir nos âmes d'abord et avant tout des choses du ciel, des choses spirituelles. Et voyez-vous, plus on est versé dans les choses de la terre par obligation, par nécessité, plus il est nécessaire de prendre les moyens pour penser aux choses du ciel. Par la lecture, la prière, le chapelet bien dit, des choses qui nous ramènent, qui tournent notre regard vers le ciel et qui nous aideront ensuite après dans les choses matérielles à ne pas nous laisser absorber par ces choses matérielles. À la suggestion maintenant qui nous pousse à la présomption, il oppose cette défense de la loi. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ce qui veut dire, veillez sans cesse pour n'être pas surpris par les occasions de péché. Ne pas entrer dans la tentation, dans le péril. Et si malgré votre vigilance, malgré les efforts que vous avez faits pour ne pas vous soumettre à la tentation non nécessaire, vous vous trouvez en présence de l'ennemi, appelez Dieu bien vite à votre secours, car vous taire, ne pas prier, serait le tenter. Troisièmement, à la suggestion qui nous pousse à l'immodération des désirs. Notre Seigneur oppose ce commandement divin, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu ne serviras que lui. » Tout faible que nous sommes, nous avons le pouvoir de commander à Satan. Quand il nous montre les faux biens de ce monde, tournons nos regards vers le seul vrai, le seul unique bien et poussons ce cri vainqueur, Dieu seul, Dieu seul. Il est nécessaire pour nous de surveiller nos désirs. Nous devons désirer le ciel. Et les autres choses ne peuvent être désirées que dans l'ordre où elle ne nous détourne pas du ciel. Enfin, concluons, notre Seigneur nous montre la récompense. Il est servi par les anges après le combat. Pour nous, il en sera de même. Le diable nous tente par des choses faciles en général, par des plaisirs faciles. Et le plaisir est réel, mais il dure si peu, c'est si court. Et après ce plaisir, il y a le remords et le regret qui durent et qui nous rendent tristes, et d'une vraie tristesse pour le coup. La tristesse d'avoir désobéi à Dieu, peut-être même d'avoir perdu Dieu dans le péché mortel. Les choses de Dieu sont très différentes. Les choses de Dieu sont difficiles au premier abord, compliquées, pas très agréables. Il y a un renoncement à faire. Mais une fois qu'on a fait la volonté de Dieu, qu'on a fait l'effort avec la grâce de Dieu, pas tout seul, alors nous sommes servis par les anges. C'est la vraie paix. La joie la plus pure ici-bas, qui nous fait goûter d'une certaine manière cette paix des élus du ciel. Et quand nous l'avons goûtée, il n'y a rien de meilleur, voyez-vous. Et on est si content d'avoir prié, d'avoir fait l'effort de servir le bon Dieu. Demandons en ce début de carême de pratiquer ce combat spirituel qui nous apportera cette paix de Dieu, cette joie, cette vraie joie intime que rien ne nous enlèvera. Demandons ces grâces à la Vierge Marie. Elle a vaincu le diable. Elle a vaincu toutes les hérésies. Elle nous mènera à la victoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.